À votre écoute, passion, partage, bonheur, motivation, vous avez la parole sur Radio Cité. Pour le meilleur et pour le dire, merci la vie.
Merci la vie, bien sûr, merci la vie.
Merci la vie, ouais.
Merci la vie.
Merci la vie.
Merci la vie.
Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Cité. Dans le cadre de Merci la vie, aujourd'hui, je suis face à quelqu'un où je suis quelque part peut-être un peu ému que ce soit lui qui soit en face de moi, parce que s'il y en a un qui m'a interviewé au moment où c'était nécessaire dans le milieu associatif et tout, eh bien, c'est bien Jean-Philippe Rappe. Jean-Philippe Rappe, qui est donc en face de moi, auquel je vais poser une question qui est un rituel dans notre émission. Jean-Philippe Rappe, comment ressentez-vous le fait que quelqu'un dit merci la vie? Comment ça résonne en vous, merci la vie?
Oh, ça résonne très très fortement. Ça résonne très fortement parce que le merci à la vie, on devrait tous l'avoir. On a tous des moments où on dit merci à la vie. Il y a d'autres moments où on dit peut-être que la vie est un peu rude. Mais non, ça résonne en fonction de très beaux souvenirs, d'un beau passage de vie et que j'espère bien continuer.
Bien sûr, c'est ce que tout le monde vous souhaite, certainement. Maintenant, est-ce que ces derniers jours, il y a une petite étincelle dans cette vie qui d'un seul coup dit « Waouh, c'est tout simple, mais qu'est-ce que ça fait du bien ?» Et puis, je le souhaite peut-être également aux autres quand ils peut-être passent à côté de cela sans se rendre compte que c'est une étincelle de lumière.
Ah oui, je crois que d'abord, l'étincelle, elle doit être inattendue. Donc, c'est tout d'un coup, moi, à l'intérieur de moi, c'est comme une énergie qui revient. Elle peut revenir parce que on a échangé de très beaux moments avec une personne ou l'autre. Je suis membre d'un comité qui s'occupe d'un orchestre, le Geneva Camerata. Et dans le cadre du comité, on s'est réunis, nous sommes quatre. Je croyais connaître tout le monde. Puis tout d'un coup, au détour d'un repas, au détour d'un moment fort à trois sur quatre, chacun s'est révélé. Et c'était un moment absolument magique. Je me suis dit, mais c'est fou à quel point j'aurais passé à côté de tel architecte ou de tel spécialiste d'attitude humaine sans, si je n'avais pas pris la peine de les écouter, s'ils n'avaient pas pris la peine de me faire confiance. Et je suis ressorti de là en me disant, mon Dieu, que c'est beau la vie. Parce que toute personne que l'on rencontre, elle porte quelque chose. Et là, j'avais besoin, parce que quand on sort du coronavirus, j'en ai pas eu d'ailleurs, mais en tout cas du confinement, on est un tout petit peu à plat, on est un peu relâché, on lit beaucoup, on rencontre des amis, mais c'est plus tout à fait la même vie. Puis tout d'un coup, quelqu'un vous rappelle, ben, la vie c'est plein d'énergie, la vie c'est plein de projets.
Alors c'est un peu comme on vit maintenant, je pense, le bonheur est dans le partage.
Alors le bonheur est toujours dans le partage. À mon avis, le bonheur solitaire, j'ai une passion, je vais vous dire. J'ai une passion pour un écrivain qui s'appelle Christian Bobin. Christian Bobin est un poète qui est du côté du Creusot et qui écrit des textes admirables, mais absolument admirables. Or, il est seul. Il a eu un très grand amour, sa femme est morte et il est seul. Et il raconte l'émerveillement de la vie. Et je me suis... Alors, cet écrivain, j'ai envie de le partager. Et j'ai un autre copain qui est lui-même un jeune avocat. On a un lien très fort par rapport à des projets que nous avons montés. Et nous avons parcouru Bobin pendant le confinement. Et ce parcours, ça a été vraiment un approfondissement. On l'a écouté, on s'est partagé des textes, etc. Et ça, c'est, je trouve que quand on arrive à pénétrer comme ça dans quelqu'un, ou quand un écrivain, un poète arrive à pénétrer en vous, c'est quelque chose de profondément réconfortant.
Profondément réconfortant, c'est, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, c'est un petit peu la situation que vous m'avez fait vivre il y a quelques années. Votre voix est connue, elle a passé sur Zigzag Café pendant des années. Pour les associations, c'était un bonheur que d'avoir ce tremplin, cette passerelle de communication avec vous. Qu'est-ce qui vous a incité à ce moment-là d'avoir cette envie de créer cette émission?
Ah, ça c'est une très bonne question. En fait, dans les êtres que j'ai aimés, il en est un qui est un autre écrivain qui s'appelle Georges Aldas. Georges Aldas, ça a été vraiment mon compagnon de route. J'ai été un peu à son écoute pendant des années et des années. Et lorsque nous avons créé Zigzag Café, le principe était simple, hein, c'était d'accueillir quelqu'un 50 minutes ou 5 fois 50 minutes, mais découvrir son chemin, ses rencontres, son état d'esprit, ses projets. J'ai dû, on m'a posé souvent la question, mais pourquoi tu as fait ça? Et j'ai pu trouver, au bout de l'exercice, la réponse. C'est-à-dire que Georges Aldas a écrit un livre dans lequel il parle de la mort de son père. Son père était un Grec qui avait réussi en Grèce et tout perdu à Genève, et qui était un homme plutôt malheureux. Et lorsqu'il va mourir, il dit à son fils, Georges, il lui dit « Ne va pas tout comme moi rater ta vie ». Et je me suis dit, mais quelle excellente question. Qu'est-ce qu'au fond que de réussir sa vie ? Et ça n'existe pas, réussir sa vie. On réussit des moments de sa vie. Et tous les 300 personnes que j'ai pu interroger comme ça pendant 10 ans, et d'autres encore, c'était ça la leçon. C'est qu'on court après le bonheur n'existe pas. On court après l'état d'être heureux, ça existe parfois. Mais ce qui est très, 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 très intéressant, c'est de se dire... Mais je fais ma vie. Ma vie, c'est mon bien le plus précieux. Et à partir de là, quand elle est bien, c'est génial. Quand elle est moins bien, c'est pas terrible. Mais c'est le seul bien réel que nous avons.
C'est intéressant parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à la dernière interview que j'ai effectuée où Vincent Soubillat me disait « Est-ce qu'on rêve sa vie ou est-ce qu'on vit ses rêves ?» J'avais trouvé cette réflexion. C'était sa phrase de conclusion. Donc je ne peux pas m'empêcher d'y repenser maintenant. Des projets en ce moment ?
Alors, juste avant, pour répondre à votre interlocuteur, moi, je pense qu'il faut rêver sa vie. Et puis rêver et tenter de réussir ce dont on a rêvé. Et il y a une très belle chanson. C'est celle d'Higelin, le Parc Montsouris. « Je ne vis pas ma vie, je la rêve ». Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a profondément touché. Si on n'a pas un rêve, si on n'a pas une envie de... Voilà, par exemple, voilà. Si je devais tout de suite comme ça vous dire quel est mon rêve, il y a mon rêve futur, c'est de pouvoir me dire est-ce qu'il serait possible de créer un festival des écrivains voyageurs et des documentaires du voyage. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le confinement, avec tous les endroits qui se ferment pour des raisons politiques et autres, dans le monde... Eh ben, quelle idée puis-je me faire du sud algérien, par exemple ? Quelle idée puis-je me faire du Mali ? Quelle idée puis-je me faire du Burkina Faso ? Et je crois que ce qui est important, c'est de... On rigole parce qu'on a réussi à avoir quand même une... C'est une scie, là.
Je ne sais pas trop. Alors, on va quand même dire où on est, je crois. Hein, parce que vous m'aviez convié dans un petit bistrot que je ne connaissais pas. Et j'ai appris en plus qu'il faisait un peu cafconce. Et on est donc sur la rue de Carouge. On est où, ici ?
Alors, on est au Broc-en-Blanche. Broc pour brocante, et Blanche parce que c'est la rue, tout près de la rue Blanche. C'est un café extrêmement sympathique parce que d'abord on y est bien accueilli, les patrons sont attachants. Et puis on va peut-être essayer de fermer la porte, non ?
On va demander au patron s'il est d'accord qu'on ferme la porte. Allez, j'y vais. Excuse-moi, il y a beaucoup de bruit. Est-ce qu'on pourrait fermer la porte là ? C'est possible, c'est gentil. Voilà, on a des gens qui nous ont accueillis, qui sont aimables, qui vont faire en sorte qu'on puisse continuer cet entretien avec un peu plus de silence. Maintenant, s'il y avait un rêve à réaliser ou quelque chose qui est en cours, ce serait quoi ? Qu'est-ce qui vous démange là ? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour aller en avant ?
Un des rêves qui me hante, c'est de pouvoir créer un festival des écrivains voyageurs, les Sylvain Tesson et les autres, la Maillard, etc. Un festival qui permettrait de redécouvrir ces écrivains et en même temps de voir des documentaires qui seraient consacrés aux pays où l'on ne peut plus aller. Sud algérien, le Burkina Faso, le Mali, etc., etc. Et je pense qu'il y a un besoin. Je crois qu'il y a un besoin de pouvoir rêver, il y a un besoin de pouvoir se rencontrer et il y a un besoin de pouvoir écouter. Si vous allez dans une librairie aujourd'hui, à Genève ou à Lausanne, vous verrez dans les présentoirs, il y a toujours un présentoir sur les écrivains voyageurs, qui sont des gens qui ont parcouru le monde, mais surtout, ce qui est l'exigence, c'est qu'ils le décrivent bien. Et je pense que, moi, je suis en tout cas très intéressé, je passe pas mal de temps à les lire. La lecture, c'est quelque chose que j'ai un peu redécouvert avec le confinement, parce qu'on galope, on galope, on galope, et puis on ne se donne pas beaucoup de temps de bouquiner. Alors là, je suis en plein dedans, et voilà, ça c'est mon rêve le plus profond. Autrement, je rêve aussi de faire un film, on est en train de le préparer, un film sur deux paysans de montagne. Lui s'appelle Michel, elle s'appelle Micheline. Ils habitent au-dessus des Diablerets, ils ont plus de 80 ans. Ils ont vécu toute cette difficulté d'être vraiment très... Là, on peut dire qu'elle est forte. Mmh. Et en même temps, ils ont quelque chose à nous laisser. Parce qu'ils y ont quand même été heureux, malgré le fait que lui n'a jamais fait de voyage. Elle, la première fois où elle est allée chez un coiffeur, c'est elle avait 80 ans. Donc, ils ont élevé des enfants qui ont bien réussi. Et puis, ils ont une profonde sagesse. Donc ça, c'est un projet de film qu'on va entreprendre, ou qu'on est déjà en train d'entreprendre pour l'automne, pour l'année prochaine.
Je reprendrai le premier de ces deux rêves, qui est dirigé sur la lecture. Or, là, nous sommes dans un lieu qui, finalement, vous va très bien. Je comprends bien pourquoi vous m'aviez convié pour cet entretien. Juste derrière vous, il y a une série de bouquins. Je ne vais pas regarder exactement de quoi il s'agit maintenant. Derrière moi, il y a un piano. De temps en temps, il y a des musiciens qui viennent jouer. Qu'est-ce qui se passe ici ?
Alors, Christian et sa femme ont créé cet endroit qui est en effet un endroit où se cohabitent la musique, les échanges et la lecture. Il s'appelle le Brocan Blanche. C'est joli comme nom, hein ? La Brocante est tout près de la rue Blanche. Et ils s'organisent tous les vendredis, des concerts. Des petits concerts, des concerts qui peuvent durer une bonne partie de la soirée, et dans une ambiance extrêmement chaleureuse. Et là, ça rejoint mon deuxième rêve. Oui, parce qu'un jour, je suis venu au Brocan Blanche avec mon fils. On vient souvent, tous les matins, on vient prendre le café ensemble, ce qui me fait beaucoup de bien. Et puis, parce que mon fils est passionné de lecture, c'est un homme qui est en plein dans son temps et qui me le raconte aussi passablement. Et là, un soir, chantait une jeune femme qui s'appelle Sirot de la rue. Sirot de la rue, c'est une magnifique personne dont on sent qu'elle a eu un vécu très difficile, qui compose, qui se produit avec une grande formation ou bien toute seule, mais qui est extrêmement touchante. Et l'idée, c'est de faire son portrait. Ça, c'est le deuxième rêve qu'on va réaliser, ça. Il n'y a aucun doute qu'il faut qu'on montre aux gens, je ne sais pas par quel canal, le talent de Sirot de la rue, que vous avez d'ailleurs rencontré, ce ferreur.
Je l'ai rencontré dans une soirée privée au Moulin Fabry. Je l'ai rencontré là-bas, et comme j'avais mon instrument de musique dans la voiture, je lui ai simplement proposé qu'on joue ensemble, et j'ai vu dans ses yeux une porte ouverte à ce qui pourrait peut-être être pour certains artistes une prise de risque, mais là, c'était simplement un pur bonheur. Elle m'a dit « Mais oui, viens !» Et si ça nous convient, on a continué.
Donc, si vous deviez la définir, que diriez-vous ?
Elle m'a touché par son vécu. Il y a simplement dans sa voix, dans son regard, dans sa façon d'être et dans les morceaux qu'elle interprète, un vécu, une richesse qui s'exprime. Je dirais que dès lors qu'on les met en musique, ça devient un moment de résilience. Et puis, non seulement pour elle, mais pour ceux qui les écoutent aussi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
On peut ajouter, puisque votre thème, c'est la vie, elle est la vie. Elle est la vie parce qu'elle éclate de bonheur à chaque fois qu'elle chante. Ça, on se dit, bon, cette femme a certainement eu un vécu difficile, etc., etc. Elle remonte sur le cheval, si j'ose dire, et elle apporte une joie profonde, vraiment, bien plus qu'une grande cantatrice au grand théâtre ou comme ça. Pour moi, ça... De la voir vivre et vibrer, surtout vibrer, ça m'apporte quelque chose.
Son nom ?
Elle s'appelle Sirot de la rue.
Voilà. Alors, ne soyez pas étonnés si dans quelques semaines, vous entendez Sirot de la rue à ce micro, parce que je rêve de l'interviewer. Ah, au fait, vous savez la différence qui est entre un rêve et puis la réalité ?
Bon, je pense que la réalité, c'est le rêve qui est abouti.
Alors, on dit couramment que la différence entre un rêve et un projet, par exemple, c'est une date. Donc, dès que possible, j'ouvrirai mon agenda et je vous annoncerai la date. Jean-Philippe Raff, c'est un grand plaisir pour moi que d'avoir ce moment de partage avec vous. Je vous remercie tout à la fois de m'avoir fait découvrir ce lieu et puis d'avoir pris le temps d'être en relation avec nous. Et puis, je vous souhaite surtout que personne ne vous prenne vos rêves et vivez-les au mieux. Au revoir, Monsieur Jean-Philippe Raff, et merci la vie.
Merci mon ami, merci. Et merci la vie bien sûr qui m'a offert cette occasion de me dire, c'est vrai que c'est, la vie c'est juste un moment d'émerveillement. Et le moment d'émerveillement, vous pouvez l'avoir à tout instant. C'est un regard qu'on échange dans la rue, c'est une fleur qu'on découvre, c'est une ambiance, c'est un lieu comme ce lieu, le Brocan Blanche. C'est des amitiés qu'on redécouvre, c'est l'intelligence de ses propres enfants qu'on découvre, c'est c'est l'envie de vivre des choses encore très très fortes et je m'y engage.
Je sens qu'on va poursuivre cette discussion hors antenne. À tout bientôt, chers amis auditrices et auditeurs. Au revoir.